Tchatch, le ravi, Radio Grenouille.
Bonjour à toutes et à tous. C'est désormais une habitude. Dans la grande tchatch, le rendez-vous politique du mensuel Le Ravis sur Radio Grenouille, les invités ne sont pas toujours des élus. Et c'est logique, car la politique est trop sérieuse pour la confier aux hommes politiques. Nous accueillons ainsi une écrivaine, et pas n'importe laquelle, Dominique Manotti, l'une des meilleures plumes du roman noir français. Mais avant de tchatcher, comme c'est l'usage, présentons notre invité. Dans la vie, comme dans un polar, méfions-nous toujours des fausses évidences. Avec pour patronyme Manotti, on pourrait croire que vos origines sont corses ou italiennes. Pas de chance, il s'agit d'un pseudo. Vous êtes né à Paris, votre vrai nom est Marie-Noël Thibault. Vous aimez vous présenter comme une romancière amatrice ? Certes, vous avez signé votre première fiction en 95 à 50 ans. Mais en 13 romans, vous vous êtes imposé comme une auteure incontournable du polar français. Et nous sommes nombreux à espérer fiévreusement que tous les romanciers copient votre amateurisme. Historienne de formation, au départ spécialiste de la révolution industrielle, vous n'avez logiquement écrit aucun roman sur le 19e siècle. Votre matière littéraire, c'est notre monde contemporain et son actualité sociale, économique et politique. Pour ne citer que trois de vos derniers romans, Racket s'inspire de l'affaire Alstom, Or Noir, qui se déroule à Marseille, remonte dans les années 70, au moment même où, partout dans le monde, le dollar et le pétrole imposent leur loi. Le rêve de Madoff nous plonge à Wall Street avec ses fonds spéculatifs. Vos livres questionnent et documentent la marche de notre société au plus près du réel. Ils sont donc naturellement de pure fiction. Militante politique et syndicale dans les années 60 et 70, tendance marxiste, les critiques qualifient parfois vos livres de romans noirs politiques. Pourtant, sans rien renier de vos engagements passés, vous rejetez l'étiquette d'écrivaine engagée. Pour enquêter sur tous ces paradoxes qui ne le sont qu'en apparence, le commissaire Daquin pourrait s'avérer utile. Il est à nouveau le héros de votre 13e et dernier roman, Marseille 73, l'histoire d'un massacre raciste tombé dans les oubliettes. Au sommaire, violence, haine, lâcheté, compromission, mais aussi l'histoire d'un combat pour la vérité, la justice et l'émancipation. Une histoire ancrée dans l'histoire, mais paradoxalement d'une saisissante actualité. On peut peut-être démarrer par ça, c'est-à-dire cette histoire, ce massacre raciste, tombé dans l'oubli.
Oui.
Un oubli, vous confirmez.
L'oubli, c'est une des grandes valeurs françaises. Les valeurs républicaines, j'ai toujours un peu de mal à les définir, mais s'il y en a une qui est bien ancrée, c'est le déni. En France, on refuse absolument de réfléchir à notre passé colonialiste, on refuse de réfléchir à notre passé raciste. Il a fallu un historien américain pour forcer le mur de l'oubli sur notre rôle pendant la collaboration dans les massacres des Juifs. On est dans le déni, c'est-à-dire nous on rêve qu'on est la grande nation, la nation des droits de l'homme, et drapé dans ses drapeaux et dans ses grands mots, on s'intéresse relativement peu à ce que l'on fait véritablement. Et là, c'est là le rôle du roman, c'est de dire, ben voilà, c'est passé comme ça. C'est ça qu'on a fait.
Et vous-même, en fait, cette histoire-là, elle n'était pas dans votre mémoire. Et pourtant, on l'a dit, vous étiez une militante et normalement très portée sur ces questions et ces enjeux.
Oui, j'étais à Paris, militante à Paris, militante syndicaliste à Paris. On a mené pendant ces années 70 plusieurs luttes très importantes avec les travailleurs immigrés. Et je n'ai pas du tout vu passer les ratonnades de 73. C'est même exactement ça qui a déclenché le départ du roman. Comme je travaillais sur l'or noir, c'est-à-dire le pétrole, la naissance du trading du pétrole, que je m'étais située à Marseille pour raconter mon histoire, en dépouillant la presse, sur l'ensemble de l'année 73, je suis tombée par le plus grand des hasards sur des faits divers. Simplement, rubrique faits divers, on a trouvé le cadavre d'un Algérien noyé dans le Vieux-Port, ça doit être un accident. On a trouvé le cadavre d'un Algérien avec des balles dans la tête. Ça doit être un règlement de compte entre coreligionnaires, etc., etc. Et il y en avait quand même beaucoup. Et ça, tout de suite, ça m'a vraiment alertée. Il y a eu une histoire aussi du Tramino qui avait été assassiné, des funérailles du Tramino, etc.
Par un Algérien.
Par un Algérien. Quelques très beaux éditoriaux de Domenech dans le Méridional, assez, les Algériens violeurs, tueurs, syphilitiques, etc. Bon.
Donc, Zemmour de l'époque, oui.
Oui, alors, très, très juste la remarque. Zemmour a repris exactement son vocabulaire. Ça, c'est très intéressant. Zemmour a repris exactement le vocabulaire de Domenech. Ça, c'est vraiment une remarque, vous avez tout à fait raison. Et là, je me suis dit, alors, si vous voulez, je crois que la qualité de l'écrivaine, c'est de se dire, là, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Évidemment, quand j'ai commencé à travailler, il y avait 2 ans et demi, quelque chose comme ça, 3 ans. 3 ans maintenant. J'en avais aucune idée que la sortie du livre allait tomber dans une vague de racisme comme on assiste à l'heure actuelle. Mais en tout cas, je savais que le racisme était vraiment une réalité fondamentale de la France, de la vie en France. Donc, si vous voulez, j'ai été alertée immédiatement. Je me suis dit, là, il y a quelque chose, il faut aller voir, il faut creuser, il faut chercher, il faut arriver à comprendre.
Alors, on reviendra dans la deuxième partie de l'émission sur les liens, en fait, avec l'actualité, peut-être les résonances que cette histoire a aujourd'hui. Mais, justement, alors, rappelons la mémoire de ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé en 73? L'été, ça démarre à Grasse, hein, d'ailleurs, pas à Marseille.
Oui, alors ça, c'est une des premières choses. On a beaucoup dit, dans la presse et partout, au moment où les événements se passent, que la ratonnade commence à la suite d'un meurtre d'un tramino marseillais par un immigré algérien. En fait, non. En fait, les meurtres d'Algériens commencent avant, en juin 73, et il va y avoir plusieurs meurtres avant cet assassinat, mais évidemment l'assassinat va provoquer une flambée immédiate. Bon, alors qu'est-ce qui se passe? Il se passe, si vous voulez, que bon, il y a toute une réalité importante qui se passe à ce moment-là. Je vais vous dire, pour moi, et c'est un élément, je crois, très important, pour moi, quand il y a des vagues de racisme, il y a toujours à l'origine des attitudes ou ambiguës ou violemment racistes des gouvernements. Ces vagues de racisme dans la population ne se passent pratiquement jamais de façon gratuite. Et là, en 72-73, le gouvernement a pris un certain nombre d'initiatives très importantes. La première de ces initiatives, qu'il faut vraiment pas oublier, c'est qu'en 68, pour lutter contre les gauchistes, le gouvernement de De Gaulle, le pouvoir gaulliste, a amnistié tous les OAS. Donc tous les OAS, comploteurs, assassins, extrêmement violents, qui avaient fait sauter qui avaient fait une série d'attentats en France, qui avaient participé très violemment à la fin de la guerre d'Algérie. Tous ces OAS sont libres et beaucoup d'entre eux se replient sur Marseille. Et vous avez à Marseille, alors ça c'est déjà un choix important du gouvernement, hein, l'amnistie de l'OAS, avec comme idée très claire derrière de les récupérer dans la lutte antigauchiste. C'est déjà un premier point et ça va tendre beaucoup la situation à Marseille parce que beaucoup d'entre eux vont redescendre sur Marseille et retrouver là toute l'émigration pied noir qui est assez fortement concentrée aussi sur Marseille et sa région. Donc ça, c'est le premier élément. Il y en a un deuxième qui est tout aussi important, c'est que devant un début de récession, le gouvernement décide d'instaurer un contrôle étroit de l'immigration. Et c'est les fameuses circulaires Fontanet-Marcellin, qui essaye de réguler l'immigration, de la contrôler, de l'empêcher de se développer en France. Et pour cela, il décide de créer une carte de séjour et une carte de travail. Et pour l'obtenir, les immigrés doivent avoir un contrat de travail et un logement décent. Sinon, ils ne peuvent pas obtenir. Or, il se trouve que 85% de l'immigration en France vit dans des taudis et travaille au noir pendant très longtemps.
Alors, ce que vous nous expliquez là, et ce qui est toujours d'ailleurs valable aujourd'hui, c'est que vous dites l'État, en fait, fabrique de la clandestinité, fabrique des clandestins.
Alors, à partir de la circulaire Fontenay-Marcellin, il a fabriqué des clandestins, exactement. Voilà.
Et donc à Grasse, ça démarre comme ça, une manifestation de travailleurs immigrés protestant contre ces circulaires et
qui demandent une carte de travail.
Voilà, qui demandent la reconnaissance de leur présence et de leur travail.
Exactement.
Et donc ils sont pourchassés par la population.
La réaction est très violente. La réaction est très violente. C'est une manif d'un petit millier de travailleurs immigrés. Ils se mettent en grève. Bon, ils travaillent beaucoup dans l'agriculture et le bâtiment à Grasse. Bon, ils se mettent en grève et c'est une manif tout à fait pacifique devant la mairie. Ils demandent simplement qu'une délégation soit reçue par le maire pour qu'il lui explique leur situation et qu'ils aient l'appui du maire pour obtenir des papiers. Bon, la réaction est très très violente. Réaction du maire, qui est à l'époque un centriste, réaction du maire, qui fait donner les pompiers, qui fait dégager la place devant la mairie à la Lansao, et qui demande les CRS, qui demande l'appui des CRS, qui vont s'en donner à cœur joie. Et le deuxième aspect qui est vraiment très important, c'est que la population de commerçants et d'artisans de Grasse vient apporter spontanément son soutien au CRS. Et les gens, les artisans, les commerçants se munissent de manches de pioche, de balais, de bon, n'importe quoi, ce qu'ils ont sous la main. Et c'est la chasse aux immigrés. On tape, on bouscule, avec invasion par ces volontaires. Des vieilles maisons de la vieille ville qui sont à l'époque complètement en ruine et dans lesquelles les immigrés sont logés. La vieille ville a été transformée en taudis, comme beaucoup à cette époque-là. Hein. Les centres-villes étaient très dégradés. Donc Grasse, c'est pareil, ils sont là. Et donc, ils sont pourchassés on remonte dans les maisons pour les tabasser, y compris dans les appartements, dans les logements, etc. Bon. C'est violent, c'est très violent. Il y a un comité de défense qui se crée et ça sera le modèle pour Marseille.
D'accord, peu de temps après.
Peu de temps après.
Suite à ce fait divers autour de l'assassinat du Tramino, donc.
Oui.
Qui est le prétexte, en fait.
Oui.
Donc là aussi, comité de défense des Marseillais, donc, qui apparaît dans la période. Et puis ce qui apparaît beaucoup dans c'est le principe du roman, la police aussi marseillaise, qui est finalement gangrénée par ces groupuscules, par ces. Ça, c'est un fait majeur, enfin, que vous documentez à travers le roman.
Oui, mais là aussi, on a, si vous voulez, on a aussi le résultat d'une politique étatique. Quand l'Algérie a été indépendante, il y a eu un rapatriement de tous les fonctionnaires français en Algérie qui ont été rapatriés en France et qui ont retrouvé leur place dans la fonction publique française, au même grade avec l'ancienneté, etc. Bon. Continuité du territoire. On se battait pour l'Algérie française. Continuité du territoire. On reprend tous les fonctionnaires, dont les fonctionnaires de police. Seulement, les fonctionnaires de police en Algérie, ils avaient quand même un certain nombre de méthodes, qui étaient des méthodes assez musclées, on va dire. Mmh. Ils ont, enfin bon, c'était une police coloniale. Donc ils vont transférer en France toute une série de méthodes et de façons de faire coloniales, bon, et enraciner, si vous voulez, c'est ce passé colonial qui ne passe pas. Voilà. En France, on a eu un passé colonial qui ne passe pas. Les premiers craquements apparaissent seulement maintenant. Hein. Seulement maintenant, c'est seulement maintenant qu'on commence à parler beaucoup de la question coloniale. Pendant 50 ans, ça a été le silence total, le déni. De même qu'on avait dénié notre rôle pendant la collaboration, on a dénié la violence coloniale, ce qu'a été la colonisation.
Alors, peut-être alerter nos auditeurs. Alors, on a bien une ancienne historienne là dans le studio, mais une écrivain aussi. Et les deux se mêlent tout le temps. C'est-à-dire que dans la gestation d'un roman, c'est 3 ans, je crois, à peu près, en tout cas pour celui-là.
Oui, oui.
Il y a un temps pour vous où vous êtes dans une entreprise de recherche, vous accumulez des données, des faits, etc. Mais ensuite, c'est bien une œuvre de fiction une fiction, d'ailleurs un roman qui s'affilie à la tradition du roman noir américain,
oui,
avec beaucoup de suspense, beaucoup d'action. On a envie de savoir ce qui va se passer, hein, tout bêtement, et des personnages. Et là, il y en a un en particulier qui est récurrent dans votre œuvre, c'est le commissaire Théodore Daquin. Alors quel rôle il a?
Ben, le commissaire Théodore Daquin, il a un rôle, il est le regard extérieur.
C'est un Parisien, hein, c'est ça?
C'est un Parisien, il est extérieur. Si vous voulez, quand j'ai commencé à écrire sur Marseille, c'était dans Or Noir, et j'avais une forte documentation sur le pétrole, j'avais situé mon histoire à Marseille, parce que c'était la fin de la French Connection et la naissance du port pétrolier de Fos-sur-Mer. Donc j'avais des raisons objectives de me mettre à Marseille, et je n'arrivais pas à me mettre dans le regard d'un policier marseillais. Et tout d'un coup, j'ai eu l'envie, l'idée de reprendre mon personnage que j'avais déjà créé, de Théodore Daquin, qui est extérieur de deux points de vue. Il est d'abord parisien, donc il est en dehors justement des luttes d'influence marseillaises à ce moment-là. Et aussi, il est homosexuel. Et de ce point de vue-là, homosexuel en 73 à Marseille.
À l'évêché,
c'est pas possible.
L'évêché, c'est le commissariat central.
Le commissariat central, c'est pas possible. C'est-à-dire qu'il faut quand même se souvenir qu'en 73, dans beaucoup de villes, un policier homosexuel était exclu de la police. C'est quand même une réalité dont il faut se souvenir.
D'ailleurs, il cache son homosexualité. Hein,
il est obligé. Alors, quand il va se retrouver 7 ans plus tard à Paris, la situation sera nettement différente. En plus, lui, il aura plus de bouteilles, il sera mieux établi dans sa fonction, etc. Donc, il aura une réaction complètement différente. Mais ici à Marseille, il est obligé de ne pas apparaître. Bon, est-ce qu'il lui pose des problèmes considérables? Et c'est la raison pour laquelle il va demander sa mutation le plus vite possible. Bon, mais ça, c'était assez amusant parce que j'ai rencontré 2 ans après la sortie du roman, Or Noir, j'ai rencontré un ancien policier marseillais à la retraite qui était venu se faire signer son bouquin. C'était à Annecy, bon, où il prenait sa retraite. Et dans le roman, je raconte que l'argent de la French Connection a servi, en fait, à développer de façon contrebande le trading du pétrole dans les années 69-73. Bon. Il m'a dit, où est-ce que vous avez eu vos tuyaux? Je lui ai dit, c'est pas un tuyau, c'est... Bon, j'ai établi, c'est la simultanéité des deux phénomènes. Et à mon avis, c'est passé par là, voilà. Mais c'est un choix de romancière. Il m'a dit, parce que nous, on y a pensé aussi, on a planqué pendant un an et on n'est jamais arrivé à l'établir. Donc moi, j'étais très très fière de ma déduction. Et puis il continue en me disant, bah alors là, faut quand même, faut que je vous dise, un homosexuel à l'évêché en 73, non, il n'y en avait pas, c'était pas possible. Voilà. Je lui ai dit, ok, d'accord, c'est le roman.
Alors, ce Théodore d'Aquin, c'est pas un gauchiste, hein.
Il est, non, c'est pas un gauchiste.
On parlait de.
C'est important. Oui. Je veux dire, c'est pas du tout mon truc. C'est pas le flic de gauche qui met en difficulté les flics de droite, hein. Pas du tout.
Mm-hmm. Tout à fait. Et par contre, c'est. Alors, je crois que vous le présentez comme ça, un chasseur.
Oui.
Et ça veut dire quoi?
Ça veut dire que il a choisi, enfin au fur et à mesure des romans dans lesquels je le raconte, il a choisi d'être faire policier et policier en haut, gradé commissaire. Ce qui est aussi, si vous voulez, ce qui m'intéressait aussi beaucoup, c'est le changement en fait dans le recrutement des commissaires qui s'opère à peu près dans ces années-là. C'est-à-dire que pendant très longtemps quand même, la police a été un métier dans lequel on commençait par en bas et on montait au fur et à mesure. Il y avait une véritable promotion interne et une promotion sociale aussi très importante. Ce qui fait que les commissaires, c'était des gens qui, pour la plupart d'entre eux, avaient passé toute la chaîne, toute la hiérarchie, et qui connaissaient extrêmement bien le métier pour l'avoir pratiqué à tous les niveaux. Avec la création de l'école des commissaires, ça devient différent. C'est-à-dire qu'il y a une école des commissaires sur laquelle on peut présenter au concours à la fin de ses études, et si on a le concours, on devient commissaire. Et à la sortie de l'école, on a des responsabilités de commissaire dans un corps dont on ne connaît plus parfaitement le fonctionnement. Et d'Aquin, c'est un de ces commissaires-là. C'est-à-dire que il est devenu policier par choix de la chasse, de l'excitation de la chasse, d'un certain style de vie et d'un certain style de rapport aux gens. C'est aussi quelqu'un qui est relativement violent. Enfin, bon, là, dans ce livre, on le voit assez peu cette fois-ci. Bon, son interrogatoire de la jeune fille, mais bon, c'est pas terrible. Non, il a aussi choisi ce métier. Bon, pour des raisons autres, familiales. Bon, mais ça, c'est autre chose. Mais, il a vraiment choisi le métier, pas du tout pour, et c'est plus ce qu'il excite et ce qu'il aime, c'est plus le goût de la chasse et de l'aventure. Et la possibilité aussi de jouer avec la légalité en restant du bon côté, ou en faisant en se débrouillant pour rester du bon côté ou apparaître comme restant du bon côté. Donc c'est ce jeu aussi avec la légalité qui est très excitant. C'est pas du tout un combattant du bien contre le mal.
Alors, encore une fois, vous, à travers la fiction, vous documentez des fonctionnements. On a l'impression d'être dans cet évêché. Alors, tout est faux, tout est vrai. Surtout, on voit une police qui s'affaire essentiellement à faire en sorte que la vérité ne sorte pas, à part peut-être d'Aquin et son équipe. On voit toute l'inertie. C'est assez spectaculaire. Il y a un personnage qui incarne ça, peut-être, et qui est marseillais, pour le coup. C'est le gros Marcel. Alors, qu'est-ce qui, brigadier chef?
Le gros Marcel, il incarne ça. Il incarne aussi une gestion pacifique des difficultés du corps policier, hein.
Il gère.
Il gère, il essaye d'arranger les choses, il consulte, il a une vision très claire et très juste des choses, il a une capacité à anticiper aussi, c'est un personnage intéressant, ce personnage du gros Marcel. Vous voyez, avec le gros Marcel d'un côté et Daquin de l'autre, on n'a pas du tout le bien d'un côté et le mal de l'autre. Hein. C'est beaucoup plus complexe. Les deux personnages sont plus complexes. Et cette gestion de la police, elle est rendue absolument presque indispensable par la complexité de la composition du corps policier. Vous avez à la fois l'écorce, le sac qui a quand même joué un rôle incroyable à Marseille, FO, les syndicats de police, les pieds noirs. Je veux dire, vous avez un corps qui est extraordinairement difficile à gérer. Et la hiérarchie pédale un peu dans le brouillard. Et Marcel a une bonne connaissance et bon, donc il a un rôle de stabilisateur. Voilà. Ensuite, si vous voulez, il y a autre chose qui est effectivement, on couvre. Pour gérer, on couvre. Mais ce qu'il faut dire aussi, avec force, c'est que les policiers ne couvrent que parce qu'ils sont eux-mêmes couverts par la justice.
La Grande Tchatche, l'émission du Ravi sur Radio Grenouille.
Ça va ?
Alors, on est avec Dominique Manotti, et comme c'est la tradition dans cette émission, vous avez choisi un morceau de musique et vous avez choisi un morceau de rap.
Loi de fer, loi Jox, loi Pasqua ou Debré, une seule logique.
La chasse à l'immigré, et n'oublie pas tous les décrets et circulaires. Nous ne pardonnerons jamais la barbarie de leurs lois inhumaines.
Un État raciste ne peut que créer des lois racistes.
Alors assez de l'antiracisme folklorique et bon enfant dans l'euphorie des jours de fête.
Régularisation immédiate de tous les immigrés sans papier et de leurs familles.
Abrogation de toutes les lois racistes régissant le séjour des immigrés en France.
Nous revendiquons l'émancipation de tous les exploités de ce pays.
Qu'ils soient français ou immigrés. Et au fait, qu'est-ce que t'en penses, toi ?
Je ne veux pas faire de politique, ma mission est artistique. Mais quand je vois tout le trafic, on ne peut pas rester pacifique. Les lois qu'ils veulent mettre en application corroborent mon accusation. Trop de mes semblables pètent les plombs pris dans le tourbillon de l'immigration. Tout pays au monde expulse ses immigrés clandestins. C'est vrai, mais la France a une autre responsabilité entre les mains. Les faits sont historiques, le peuple français a fait couler son sang pour écrire noir sur blanc les bases d'une démocratie en Occident. Que les dirigeants s'en souviennent, attends, je les illumine. Droit d'asile pour les populations victimes de la misère du globe. Combattre le racisme, le fascisme, le sexisme et toutes sortes de xénophobes. Sans papier donc sans droit donc écrasé par les lois. La justice nous taronne d'abat quand on voit ces desiderata. Au grand jour, je reste lucide dans mon faubourg et garde un œil sur les vautours.
Une excuse, les gens savent très bien pour qui ils votent. 52% de fils de pute à Vitrolles. Une fois pour toutes c'est clair, idem pour ces ministres mielleux. Votant des lois pour séduire ce type d'électorat. Rappelle-toi qui s'est battu pour la France. Couteau entre les dents rampant et rien dans la panse. Tu collaborais à l'époque chien, un tout docile. Heureux de voir les arabes débouler pour libérer ta ville. De choc ça te brille, je traque les faf en costard. La gauche caviar, la droite de la droite. Pouvoir moyen, resistenza, effet independenza. Tous égaux devant les lois, dixit sentenza.
Je suis comme un pionnier, je porte très haut le flambeau. Je place une pour les frères au préau. Mes rêves de trois fois dix envois. Trop longtemps écrasé, étouffé, assoiffé, je rêve de rêveau. Je déborde, je tacle l'obstacle, enflamme les consciences qui s'évaporent. Les ports s'installent, s'étalent, tais-je le peur. Sur une étroite bordure, tout le monde sait que leur corps est creux et plein d'ordures. Ne voyez-vous pas, je ne sens pas de vos portes. Je baisse vos élites, je me sens plus fort, je prends des grades. J'empoisonne avec le wet, split, la machine étatique, le rouleau, le compresseur. Qui sont patients contre vos passions. Gros, je mets des coups de pression. Les bâtards veulent me pousser dans l'impasse. Que mon nom perde ma trace. Reste dans la masse, l'arme efficace et je crame le système comme une tarasse.
Faites pas plus haut que ton cul si tes membres t'es moins costaud. Mais dis-moi mani, tu déblatères, écrases tes frères comme des blattes à terre pour un drapeau. Devant la lumière, sombre sabre reste sobre pour l'octobre. Dans les décombres, réfléchis, jamais ne fléchis dans l'ombre des nombres des soldats. Qui ne tendent pas l'arme sur leur temple n'est pas y'a pas. Je casse trop, je reste fidèle à moi-même, trop j'en parle. L'argent parle, les agents parlent. Procrée trop d'infidèles, s'opposant, m'imposant pour Karl, je reste fidèle. Même au bout d'une corde, miséricorde, je casse trop.
Pour moi, je fracasse, c'est une histoire pas brasse. Toute couleur de peau, l'odeur de soufre de mes fils, dont les gens souffrent à cause des noirs racistes. Galeriano, signal et bastos, les frères poussés dans la scène, trop de peine.
Alors voilà, c'était un morceau produit par le MIB, le mouvement Immigration Banlieue, en 2014, et ça s'appelle 11 minutes 30 contre les lois racistes, donc on n'en a écouté que 3 minutes, et ces lois racistes étaient les lois Debré. Alors on a entendu Akhenaton et Freeman de IAM notamment. Il y a des phrases comme ça, loi de fer, loi Jox, loi Pasqua ou Debré, une seule logique, la chasse à l'immigré. Et puis on parle d'état raciste aussi.
Ça a été fait en 98-99, ça a été réédité en 2014.
En 2014, d'accord. Pourquoi ce choix? Alors évidemment, ça parle beaucoup de
sujet. Parce que c'est un peu aussi un hommage au MIB, ce type de mouvement qu'on trouve dans le roman, le MTA, le mouvement des travailleurs arabes. Il y a eu aussi après, il y a eu plein d'autres choses. Il y a eu la marche pour l'égalité dans les années, début des années 80. Et puis, dans les années 90, le MIB. Bon. Donc, c'était un peu aussi un clin d'œil au MIB. Pour dire que ces tendances à ce type d'organisation ont été durables et ont obtenu et ont réussi à faire des choses quand même.
Alors, ce qu'on voit dans Marseille 73, c'est comment une partie de la police, pas la totalité, une partie de la police s'emploie finalement à ne pas faire de vagues et à maintenir finalement le statu quo, et surtout comment on construit le fait il y a un esprit de corps, voilà, dans cette profession.
Ah oui, ça,
que
c'est
vous
sûr.
Décrivez de façon assez effrayante. Et ça paraît, alors c'était déjà là en 73, et ça paraît toujours présent aujourd'hui.
Ah oui, ça absolument. C'est une donnée de base, ça. C'est une donnée de base, l'esprit de corps. Mais si vous voulez, là aussi, il ne faut pas se faire trop d'illusions. Bon, c'est plus prononcé que dans n'importe quelle autre profession en France. Mais il faut quand même bien voir qu'en France, les fonctionnaires ont un esprit de corps très fort dans tous les domaines de la fonction publique. Il y a pas, enfin, les policiers sont pas les seuls dans ce cas-là. Moi, je viens de l'enseignement. L'esprit de corps des fonctionnaires enseignants, c'est assez gratiné aussi, je veux dire.
Bon. Sauf que les enseignants ne portent pas des armes.
Voilà, non, c'est-à-dire, et donc, si vous voulez, le fait que le métier de policier, ils sont armés et ils sont dans la rue et ils sont face à un certain nombre d'adversaires armés eux aussi, enfin bon, bref, ils ont un métier différent de celui d'enseignant, l'esprit de corps est encore plus fort. Parce que il s'enracine non seulement dans l'esprit de fonction publique, mais il s'enracine aussi dans la réalité du boulot. Un policier n'agit jamais seul, ils sont toujours en groupe. Et la sécurité de chacun dépend de l'esprit du groupe et de la solidité du groupe. Donc ça construit un esprit de corps. Et ça, c'était quelque chose qui m'a toujours étonnée, parce que ça fait longtemps que j'ai des discussions avec beaucoup de lecteurs sur la question des policiers. Bon, j'ai écrit pas mal de romans, ça m'intéresse, et bon, c'est quand même un métier intéressant. Et puis c'est un point très important de notre société. Et c'est une chose qui m'a toujours beaucoup étonnée, c'est qu'on semble découvrir aujourd'hui que les policiers font des faux témoignages. C'est une donnée de base. C'est une donnée de base. Dès qu'il y a le moindre pépin, la moindre bavure, l'équipe qui est en question se réunit, met au point le témoignage, et tout le monde témoigne de la même façon. C'est un fonctionnement interne permanent. Permanent. Alors, j'arrive pas à croire que les juges ne s'en sont jamais aperçus. Je n'arrive pas à y croire. En fait, les juges le savent, procureurs, juges, enfin les magistrats le savent, et couvrent. Et couvrent. Et là, vous avez quelque chose aussi très très important sur le fonctionnement de la justice et de la police en France. C'est que procureurs et juges d'instruction travaillent avec des policiers. Et ils n'ont aucune autorité sur ces policiers. Ces policiers dépendent du ministère de l'Intérieur. Le résultat, c'est que procureurs et juges d'instruction dépendent des policiers.
Oui, donc c'est tout ça n'est pas très optimiste.
et vous comprenez, c'est pas eux les patrons. Les patrons, c'est ceux qui font l'enquête sur le terrain. Et si les policiers décident que tel juge, vraiment, on n'en veut plus, ben, ils gagneront.
Est-ce que vous arrivez jusqu'à faire des parallèles avec le, ce que vous décrivez de façon romancée dans votre livre et puis des faits plus récents je pense qu'on est à Marseille, par exemple la mort de Zineb Redouane.
Oh ben évidemment. Ah ben évidemment. Alors la mort de Zineb Redouane.
Rappelons qui elle est.
Oui. Déjà. Alors c'est une vieille femme, 80 ans je crois, qui se trouvait sur le parcours d'une manifestation de gilets jaunes au quatrième étage de
gilets jaunes et aussi de mouvement sur le mal logement à Marseille. Ils étaient mélangés
oui,
ce jour-là.
D'accord. Mmh. Oui, j'ai pas participé à la manif, donc vous me corrigez si je fais dis des bêtises. Par contre, sur le cas de Zineb Redouane, c'est très très net. Elle était au quatrième étage. Il y avait du bruit. Hein, elle se penche à sa fenêtre pour fermer ses volets et elle prend une grenade en pleine tête. Elle a la tête, la partie droite du visage complètement enfoncée. Elle est évacuée à l'hôpital. On l'opère et elle meurt. Dans un premier temps, il a été dit qu'elle était morte des suites de l'opération. Ce qui est drôle, franchement. Bon, le juge d'instruction a été dessaisi, quelqu'un d'autre s'en est ressaisi. Bon, un autre juge a été nommé, ça a été dépaysé, donc éloigné de Marseille. Et le juge d'instruction, là, a essayé de faire plus sérieusement son boulot. La trajectoire de la grenade a été reconstituée. Donc clairement, elle a été visée. C'est-à-dire que quatrième étage, la grenade n'était pas destinée aux manifestants. Bien. On a reconstitué le fait qu'il y avait 5 policiers qui agissaient ensemble, qui étaient autour du lance-grenade. 5 policiers. On est arrivé à identifier ces policiers puisqu'on savait qui avait le lance-grenade. On savait que c'était ce groupe-là, pardon, qui avait le lance-grenade. Alors, qui dans le groupe ? Déjà, le juge d'instruction a demandé... Alors, chacun dit qu'il ne sait absolument pas. Donc, pas de témoignage des 5. Ensuite, le juge d'instruction... a demandé à la hiérarchie policière de lui fournir l'arme pour identification, c'est-à-dire avec la grenade qu'on a retrouvée dans l'appartement de Redouane Zedouane, essayer de faire l'expertise et montrer que c'est bien ce lance-grenade qui a tiré. Donc à partir de ce moment-là, savoir nominalement à qui il a été confié. Eh bien, la hiérarchie a refusé de donner.
L'enquête est en cours, le jugement n'a pas eu lieu.
L'enquête est en cours, l'identification n'est toujours pas faite. La hiérarchie a refusé de fournir l'arme à la justice.
Et le ministre, Christophe Castaner, avait plutôt fait des démentis.
Pour Castaner, de toute façon, les violences policières n'existent pas. Donc ça, c'était absolument tranquille. Mais donc, vous voyez, c'est très... Bon, bien sûr, vous avez l'équipe de 5 qui ne dira jamais rien. Mais l'équipe de 5 est couverte par sa hiérarchie. Elle a été couverte dans un premier temps par la justice qui a dit qu'elle était morte à la suite de l'opération. Bon... Et puis là, c'est peut-être en train de s'effriter aujourd'hui. L'aveuglement de la justice est peut-être aujourd'hui en train de s'effriter légèrement. Donc l'enquête a continué, mais là-dessus, elle se heurte au refus clair et net de la hiérarchie. Et le ministère s'est pas prononcé. La hiérarchie n'a pas été bousculée. Après ce refus.
Alors, on fait des allers-retours entre 73 et aujourd'hui, mais il y a un élément que vous racontez aussi dans le roman, c'est sur une histoire de vocabulaire, mais qui va bien au-delà du vocabulaire. C'est comment on appelle en fait les victimes des ratonnades, en fait, c'est le terme de musulman en fait pour les définir, qui est assez étonnant, et c'est une histoire qui démarre là peut-être et qui est toujours présente aujourd'hui.
C'est une histoire qui démarre en Algérie. Hein. Mm-hmm. En Algérie, quand l'Algérie était un département français. Il y avait une grosse difficulté pour nommer la population algérienne. On ne pouvait pas parler d'Algériens, puisque l'Algérie, c'était la France. Mmh. Donc, il n'y avait pas de peuple algérien. On ne pouvait pas parler de Français, parce qu'on savait bien qu'ils n'avaient pas les mêmes droits que les citoyens français. On disait le contraire, mais on le savait, bon, clairement. Mmh. Donc, on ne disait pas les Français. Et puis, on cherchait un terme pour les différencier des Français, des vrais Français. Bon, eh ben, le terme... On parlait pas d'arabe. Le terme utilisé pendant la guerre... Enfin, avant même la guerre d'Algérie, pendant la conquête, depuis la conquête, c'était musulman. Et ça, c'est effectivement très surprenant, surtout au moment de la République, si vous voulez, soi-disant laïque. On les désigne par leur religion. C'est-à-dire qu'ils ont été assignés à leur religion par le colonisateur lui-même. Moi, j'en ai été surprise, quoi. Et donc, après, quand l'Algérie est devenue indépendante, on parle de musulmans, on parle de nord-africains. On parle parfois d'Algériens quand c'est identifié, parce que maintenant c'est une nation. Mais ce qui est très très frappant, c'est très souvent, on dit, enfin la presse et la justice et la police disent, c'est pas bon, ils ont été tués, d'accord. Bon, il y a un type qui vient d'être tué, mais c'est un règlement de compte entre coreligionnaires. Mmh. Ce qui est là aussi extrêmement surprenant. Donc c'est vraiment, il y a une difficulté de vocabulaire là qui est révélatrice d'un profond malaise politique, quoi.
Alors à propos de politique, c'est une émission politique, mais c'est 73 et ces ratonnades là, oubliées, perdues dans la mémoire collective, elles correspondent aussi à l'émergence de l'extrême droite, sa réorganisation et son déploiement, en fait.
Absolument. Alors, il y a toujours eu des petits mouvements d'extrême droite. Il y en a encore. Bon, ils se sont tous sont marqués côté Algérie française. Et puis, il y a, à partir des années 72, une réorganisation de cette extrême droite. Il y a d'un côté, bon, Ordre Nouveau, qui est un mouvement extrêmement violent, qui va être dissous en 73, je crois. Oui, en 73, en juin 73, qui lance... Alors, vous voyez que là, il y a une liaison très très étroite avec la politique gouvernementale. Le gouvernement, en 72, fait cette circulaire Marcelin Fontanet. À partir de ce moment-là, le mot d'ordre d'Ordre Nouveau va être « halte à l'immigration sauvage ». Bon, alors « sauvage », c'est eux qui prennent le terme, si vous voulez, mais... Halte à l'immigration sauvage, c'est la traduction d'extrême droite de la circulaire Fontanet-Marcellin. Mmh. En vocabulaire d'extrême droite, si vous voulez. Et donc, cette campagne, halte à l'immigration sauvage, elle a pas mal de elle est assez reçue. Elle a beaucoup d'audience. Elle a de l'audience. Et en 72 aussi, se crée le Front National, pour la première fois, apparaît le Front National, qui va être, lui, alors sur le même socle idéologique, avec l'importance de l'Algérie française, du souvenir colonial et du racisme, pr- privilégié le racisme anti-arabe, mais à l'époque, c'est aussi très antisémite. Donc, si vous voulez, ce mouvement Front National, lui, il a un axe, c'est de donner une existence légale et dans le jeu électoral à cette extrême droite violente. Et ça se passe à ce moment-là, et ça, c'est très intrinsèquement lié à la crise des ratonnades. C'est très lié. Vous avez une base du Front National qui est incontournable et qui est celle-là, qui est l'apologie du colonialisme, l'apologie du racisme, l'enracinement dans la haine raciste anti-arabe.
Alors, il se passe quelque chose dans ce roman qui n'est pas toujours le cas dans vos romans qui sont souvent noirs, très très noirs. Celui-ci ne déroge pas, mais il y a des personnages positifs, peut-être plus que d'habitude. Alors, je sais pas, j'ai pas lu tous vos romans, je dois avouer, mais quelques-uns. Et en particulier, je le disais, enfin, c'est aussi l'histoire d'une mobilisation, en fait, alors ça passe par Béchir, le personnage et le mouvement des travailleurs arabes, Marie-Lou de la CIMAD, et puis la famille Kider, en fait, donc le père et le frère qui a survécu, le plus jeune a été assassiné. C'est venu comment ça? Alors c'est pas toujours le cas, est-ce que
Si vous voulez, non, ça, vous avez raison, c'est pas toujours le cas, mais c'est aussi mon souvenir de militante de l'époque. Clairement, si vous voulez, bon, pour moi, le MTA, ça a été une découverte aussi, ce que le MTA a conduit comme action à Marseille à l'époque. C'est quand même assez remarquable. Et les deux grèves successives qu'ils ont menées, d'abord à la Ciotat, puis ensuite sur le département, il faut essayer de mesurer, c'est assez remarquable quand même. Un tout petit mouvement, qui s'adresse aux travailleurs arabes et qui arrive à mettre en rideau complet les chantiers de la Ciotat, et quelques jours après... qui arrive à arrêter, non pas totalement, mais de façon extrêmement manifeste, l'activité industrielle sur le département des Bouches-du-Rhône, c'est quand même... Bon, il se passait vraiment quelque chose, là. Il se passait vraiment quelque chose. Donc, pour moi, c'était très important de rendre compte de cette mobilisation et d'essayer de réfléchir aussi... à cette mobilisation et à la façon dont le corps organisé français classique, les syndicats, les partis, n'y ont pas répondu. C'est aussi le problème. C'est aussi le problème. Et pour ma génération, pour l'histoire de ma génération, c'est extrêmement important. Et ça se reproduit régulièrement. C'est-à-dire qu'on va avoir la même histoire avec la marche pour l'égalité dans les années 80. Donc c'est vraiment... Là, il y a... Moi, si vous voulez, si j'écris des romans, c'est aussi pour m'interroger sur ce qu'a fait ma génération, ce qu'elle a réussi et ce qu'elle a loupé. Donc là, il y avait vraiment un truc très important... Et c'est rendre hommage à ces militants, à ce qu'ils ont fait, comme rendre hommage à la CIMAD aussi. C'était pas pensable d'en faire des paysans, des personnages noirs. Non, pas des personnages noirs pour moi.
Alors c'est l'histoire de votre génération, mais et je crois tant mieux hein, que le livre se vend bien en ce moment. Et il semblerait qu'il fasse, il entre en résonance aussi avec une autre génération et des mobilisations actuelles. Alors en ce moment, par exemple, il y a alors c'est très discret et pas du tout dans le viseur des médias, mais il y a une marche des solidarités qui est partie de Marseille notamment, mais pas que, et qui se dirige vers Paris pour y arriver le 17 octobre, autre date symbolique, et qui sont des sans-papiers hein, qui demandent leur régularisation, c'est pas nouveau, et la fermeture des centres de rétention administrative, mais il y a aussi les effets, y compris en France, du Black Lives Matter et suite à l'assassinat de George Floyd, il y a tout ça en ce moment.
Oui, il y a tout ça, et bon, ce que je vous disais tout à fait au début, j'ai pas du tout envisagé ça, quand j'ai commencé à écrire mon roman. Mais évidemment, c'est en résonance. Par contre, ce dont j'étais sûre, c'est que le problème des ratonnades oubliées, c'était un vrai problème. Et c'était sensible. Ça, j'en étais sûre dès que j'ai découvert l'existence de ces ratonnades oubliées. Mais que ça allait entrer en résonance aussi vite, non, ça, je ne pouvais pas le penser. Et je salue les mobilisations actuelles, oui, c'est clair.
Parce que vous avez souvent souligné que votre génération avait échoué politiquement, et puis il y avait une espèce de déflagration, de renoncement, un espoir de changer les choses, changer le monde peut-être, et la vie, j'en sais rien. Et est-ce que là, il y a quelque chose qui vous avez l'impression qu'il y a quelque chose qui se remet en place peut-être ou,
Oui, il y a de nouvelles. Oui, il y a des situations nouvelles. Il y a une nouvelle génération. Il y a des mobilisations nouvelles, des idées nouvelles. Après des années et des années de très grave dépression, oui, quelque chose de nouveau est en train d'apparaître. Et ça, c'est très. Moi, ça me fait plaisir. ça me rend heureuse.
Alors peut-être des choses qui vous feront moins plaisir, c'est Macron et son séparatisme. Est-ce que ça résonne aussi? Alors, est-ce qu'on revient avec
Ben, le discours, ça, on revient au rôle des gouvernements. Le discours là-dessus va évidemment soutenir et développer les poussées racistes en France, ça c'est clair. C'est clair, enfin le discours de Zemmour est ahurissant, mais attendez, Zemmour a une place dans une radio tout à fait, dans une télé, pardon, tout à fait existante, enfin, légale, etc. Zemmour a eu quelques mots avec des individus dans une rue il n'y a pas si longtemps que ça. Macron l'a soutenu et a dit que c'était absolument invraisemblable. Macron pêche en eau trouble. Et ça aura des conséquences, clairement.
Alors, en vous écoutant, on a l'impression que vous êtes toujours très engagé, très politique. Et alors, pourquoi refuser ce terme d'écrivain
engagé.
De romancière politique, voilà, c'est ça.
Pourquoi ah non, c'est... romancière politique, ça, je refuse
engagé.
Pas du
pourquoi
tout.
Pourquoi ce terme d'engagement?
Parce que dans mon histoire à moi, le terme de romancière engagée, écrivain engagé a un sens qui fait référence au passé communiste de l'après-guerre. Voilà, un engagement, c'est entrer à l'intérieur d'un parti et travailler en liaison étroite avec ce parti sur des objectifs politiques définis. Ce n'est pas ma situation. À l'heure actuelle, je le regrette, mais je n'appartiens à aucun parti. Donc pour moi, si vous voulez, le terme d'engagé, ça ne veut pas dire qui a des opinions politiques. Ça veut dire qui est engagé dans un mouvement politique précis et ça a des conséquences précises. Donc c'est pas mon cas.
D'accord. Et vous pensez que...
Et je le regrette.
Vous le regrettez. Vous pensez que vos romans et la littérature peuvent faire quelque chose, peut agir sur le monde ou...
Écoutez, je pense que peut agir. Il n'y a pas d'influence directe. Par contre, si vous voulez, bon, d'abord, il y a quelques écrivains extrêmement rares qui ont eu une influence. Chez nous, Hugo, en Angleterre, Dickens, ils ont eu des influences précises à des moments précis sur des mouvements politiques réels, existants. Bon, mais c'est des exceptions. Par contre, si vous voulez, l'écriture, le roman, contribue à l'état culturel d'une société. Et c'est quand même très important. C'est une goutte d'eau dans un monde, mais c'est très important, l'état culturel d'une société. Faire lire un certain nombre de choses, en discuter, rencontrer des gens, travailler à raconter le monde tel qu'on le voit, tel que moi je le vois, tel que d'autres le voient, bon, et discuter de ses visions, oui, ça contribue à la culture d'une société, et en ça, c'est important. Mais un roman n'a pas d'effet réel sur un mouvement politique, par exemple.
Et vous qui faites comme ça un travail de documentation, de recherche, pourquoi ne pas faire un essai? Alors moi, je ne regrette pas, mais pourquoi ce choix de la fiction
Parce que ce qui est important, c'est que les lecteurs vivent les situations. Ça a beaucoup plus d'influence que l'histoire, beaucoup plus. Parce que le lecteur d'un roman, il vit la situation, enfin complètement, il est dedans. Il n'est pas en train de lire un raisonnement qui lui est extérieur, il est en train de vivre une aventure. Si le roman est réussi, évidemment, bon. Il peut aussi lire 3 pages et puis arrêter. Bon. Mais si le roman est réussi, s'il entre dans l'histoire, alors il va la vivre jusqu'au bout. Ce qui fait une expérience de vie, en fait, qui est une expérience très profonde. On est très influencé par les romans qu'on a aimés. Très influencé. Et beaucoup plus qu'on ne le croit. On a des modes de raisonnement, de saisie de la réalité qui passent très très souvent à travers des lectures d'autrefois, de l'adolescence, des lectures ensuite de l'âge adulte, etc. Bon, tout ça forme notre personnalité. Ce sont des expériences vécues. Un roman, c'est une expérience vécue. Un essai historique, non. Un essai historique s'adresse à votre raison, à votre intelligence uniquement. Pas à vos sentiments, à vos peurs, à vos réflexes, à vos amours, à vos sensations physiques. Alors que dans un roman, oui, vous avez tout ça.
Alors vous dites parfois que vous n'êtes pas une littéraire, mais en fait vous avez vraiment un style pour ceux qui ne le connaissent pas encore. Et vous, des partis pris très forts, vous n'écrivez qu'au présent.
Oui.
Pourquoi?
Il y a plusieurs raisons. La raison fondamentale, si vous voulez... Non, il y a plusieurs raisons. Je pense que ce qui m'a influencé, c'est le cinéma. Au cinéma, vous êtes devant l'image, l'image, elle est au présent. Mmh. Le cinéma, c'est un art du présent. Vous êtes dedans. Vous êtes dedans. Ça m'a beaucoup influencé. Et si vous voulez, la très grande différence entre le présent et le passé... Le temps du récit en France, dans la littérature française, c'est le passé. Imparfait, parfait, etc. Les différents temps du passé. Bon. Il y a une très grande richesse, d'ailleurs, des temps du passé en France. C'est une langue qui est très riche, les nuances des temps du passé. Bon. Mais, si vous voulez, si vous commencez un roman qui est écrit au passé, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que l'histoire est fini, que celui qui vous la raconte connaît la fin, et que vous, vous n'êtes pas à égalité avec le romancier, parce que vous, vous la savez pas encore, la fin. Donc vous êtes devant un truc construit hors de vous. Le présent, non. Au présent, alors évidemment c'est un artifice, mais au présent, l'auteur suit l'image, suit l'histoire au même rythme que le lecteur. Il ne connaît pas la fin. La fin est en train de se faire. Et ensuite, parce que c'est le temps de l'action.
D'accord, ben on va s'arrêter là. Hein, Dominique Manotti, on pourrait parler encore d'une heure. Et donc, j'invite les auditeurs de Radio Grenouille à vous lire et pour découvrir le passé au présent. Voilà. Un nouveau paradoxe. Merci bien, au mois prochain.
La Grande Tchatche, le Ravi, Radio Grenouille.